3. Les objections ad personam. Soulever une objection ad personam consiste à mettre en cause directement la crédibilité des orateurs. Il ne s'agit plus de discuter la validité des arguments, ni de contester la cohérence des lignes argumentatives, mais bien d'attaquer l'interlocuteur lui-même. Plutôt que de nous embarrasser à réfuter son argumentation, nous cherchons à le décrédibiliser personnellement, afin de discréditer l'intégralité de ses propos en un seul mouvement. Mais l'objection ad personam n'est pas seulement une arme de disqualification. Elle est aussi, le plus souvent, perçue comme une arme disqualifiante. En cherchant à déshonorer nos adversaires, le risque est grand d'attirer le déshonneur sur nous-mêmes. Dans le débat public, ce procédé a été frappé de disgrâce. Être accusé d'avoir commis une attaque personnelle, c'est s'exposer à perdre soi-même toute crédibilité. Or, la réalité est plus complexe que cela. Il est nécessaire d'introduire une distinction cruciale entre les objections ad personam externes, qui sont effectivement fallacieuses à bien des égards, et les objections ad personam internes qui, elles, peuvent être considérées comme plus rigoureuses. L'objection ad personam interne consiste à dénoncer chez l'interlocuteur une caractéristique entretenant un rapport direct avec l'argumentation qu'il est en train de développer. Dans cette mesure, elle peut apparaître comme parfaitement recevable. Imaginons que, lors d'un déjeuner avec des amis, nous annoncions nous sentir malades. L'un des convives nous demande de lui préciser les symptômes que nous ressentons, puis nous suggère une liste de médicaments. Si l'ami en question est médecin, nous allons sans doute noter ses conseils précieusement avant de passer à la pharmacie du quartier. En revanche, s'il est professeur de mathématiques, il est probable que nous écoutions ses recommandations distraitement avant d'aller consulter un médecin diplômé. Dans ces deux interactions, les arguments échangés sont strictement identiques. Ce qui entraîne notre rejet dans le second cas, c'est la personne même de l'orateur. En notre fort intérieur, nous avons formulé une objection ad personam. Il n'est pas médecin, donc nous n'avons pas confiance en sa médecine. Notons que cette objection ne dit pas un mot du tort ou de la raison, du vrai ou du faux. Un soignant expérimenté peut parfaitement commettre une prescription erronée et un remède de grand-mère se révéler être un conseil avisé. Mais si l'objection ad personam interne n'a jamais rien de définitif, elle peut malgré tout apparaître comme rigoureuse. Constituer l'un des éléments pertinents pour décider si nous souhaitons nous laisser convaincre, au même titre que les arguments. L'objection ad personam externe consiste, à contrario, à dénoncer chez l'interlocuteur une caractéristique n'entretenant aucun lien direct avec le sujet en discussion. Il s'agit alors d'un procédé indéniablement fallacieux. Nous nous contentons de tout mettre en œuvre pour discréditer notre interlocuteur, le faire paraître détestable, ridicule, ignare, incapable, angoissant. Notons que, ici, il importe peu que nos allégations soient fondées ou mensongères. Quand bien même les faits dont nous accusons notre adversaire seraient parfaitement établis, la seule question qui vaille est de savoir s'ils ont un rapport avec la controverse. Reprenons l'exemple initié plus haut et imaginons maintenant que l'ami qui nous donne un conseil de médecine soit effectivement médecin, mais qu'il ait par ailleurs été condamné pour fraude fiscale. S'agit-il d'un fait embarrassant? Bien sûr. Pourrais-je l'en accabler s'il me reprochait un jour de télécharger des films illégalement? Sans doute. Mais est-ce un motif pertinent pour disqualifier sa prescription médicale? En aucune manière. En définitive, l'objection ad personam externe n'est rien d'autre que l'irruption dans le processus de conviction de la médisance, de la calomnie, voire de la diffamation. Étude de cas numéro 1. Lors d'un dîner de famille, mon frère monopolise la parole. Il s'est pris d'une nouvelle passion, les technologies permettant de capter le carbone directement dans l'atmosphère. D'après lui, il s'agit de la solution miracle au réchauffement climatique, mais aussi et surtout d'une juteuse opportunité d'investissement. Il conseille d'ailleurs à nos parents d'investir d'urgence dans les entreprises de ce secteur. Les bénéfices sont assurés. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Je me souviens avoir lu quelques articles sur ces technologies. Elles sont encore balbutiantes et rien ne garantit qu'elles soient un jour rentables, sinon même opérationnelles. Je préférerais toutefois éviter de m'engager dans un long débat d'experts avec mon frère. Il risquerait de prendre le dessus en me noyant sous des exemples que je ne maîtrise pas. Je me contente donc de dire, voilà qui est bien alléchant, mais tout de même, tu nous avais suggéré d'investir dans l'informatique juste avant l'explosion de la bulle Internet, dans les subprimes juste avant la crise de 2008 et dans la crypto-monnaie juste avant l'effondrement du Bitcoin. Es-tu sûr d'être la meilleure personne pour nous aider à gérer notre argent ? Mon frère se lance dans une tirade interminable, mais trop tard, l'affaire est pliée. Au regard dubitatif que lui lancent mes parents, je sais leurs économies en sécurité. Décryptage. Dans ce débat compétitif, nous avons volontairement choisi de délaisser l'objection ad rem, qui nous aurait emmené sur le terrain de prédilection de notre adversaire, pour lui préférer une objection ad personam succincte et expéditive. Celle-ci pourrait apparaître comme un aveu de faiblesse. Incapable de vaincre sur le terrain de l'argumentation, nous avons choisi la voie de la disqualification. Il s'agit pourtant d'une objection interne, contenant sa part de rigueur. Après tout, il ne semble pas déraisonnable de douter des conseils d'un mauvais conseilleur. Mais n'oublions pas que, toute légitime qu'elle puisse être, l'objection ad personam n'a jamais rien de définitif. Ce n'est pas parce que notre interlocuteur a eu systématiquement tort par le passé qu'il ne pourrait pas avoir raison aujourd'hui. Alors, à quoi faut-il donner la priorité ? À une argumentation documentée ou à une objection ad personam justifiée ? Cette question, une fois encore, n'admet ni bonne ni mauvaise réponse, seulement l'une plus convaincante que l'autre aux yeux des auditeurs. Étude de cas numéro 2. Lors d'un dîner en ville, passablement éméché, j'engage une querelle avec mon voisin qui vient de prendre une position très tranchée sur la crise politique en Libye. Quelques minutes suffisent à démontrer qu'il maîtrise bien mieux le sujet que moi et s'apprête à me ridiculiser. Je change donc de stratégie. Quoi que tu en dises, derrière tes belles paroles, tu te ranges du côté des persécuteurs. En même temps, pouvait-on attendre autre chose de la part d'un homme bien connu pour son comportement envers les femmes ? Décryptage. Alléchant procédé que l'objection ad personam externe. Nous réglons nos comptes à peu de frais et prenons une option sur la victoire, tout en nous économisant le labeur de produire une argumentation étayée. Une telle arme ne vient pas toutefois sans un prix à payer. Sur le plan de l'efficacité, d'une part, que nos auditeurs relèvent le stratagème et nous passerons tout à la fois pour une brute et un escroc. Sur le plan de l'éthique, d'autre part, un tel procédé n'honore guère l'oratrice ou l'orateur qui s'abaisse à l'utiliser. Il n'empêche, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, l'objection ad personam externe est bien un outil du débat contradictoire. Nous aurons là aussi l'occasion d'y revenir. 4. Devancer les objections. La contradiction fait partie intégrante de l'argumentation. Pour l'oratrice ou l'orateur, il est essentiel d'être prêt à affronter les objections. Cela passe, nous l'avons vu, par un soigneux travail de préparation. Plus nous aurons anticipé les contre-arguments, mieux nous saurons y répondre. Mais cela soulève également une question de stratégie. Et si la meilleure manière de répondre à la critique était encore de la devancer, anticiper les objections avant même qu'elles ne soient soulevées, empêcher les attaques d'être portées afin d'en protéger nos arguments. En rhétorique, une telle stratégie porte un nom, il s'agit d'une prolepse. La prolepse est le procédé qui consiste à formuler l'objection de l'interlocuteur à sa place afin d'y répondre avant qu'elle ait pu être énoncée. Elle s'incarne dans des structures telles que « bien sûr, on me dira que… » mais à cela, je répondrai que… » Vous m'objecterez que… » et pourtant, il faut bien reconnaître que… » j'entends ceux qui pensent que… » mais n'oubliez pas que… » Toutes ces formulations relèvent d'une même dynamique, priver l'interlocuteur de l'occasion de nous contrecarrer. Elle lui coupe l'herbe sous le pied et l'ampute des saillies qu'il nous réservait sournoisement. En cela, la prolepse constitue un outil de choix que nous devons apprendre à manier avec finesse. Car, loin d'être une arme omnipotente, elle requiert au contraire une utilisation précautionneuse et adaptée à la situation. La prolepse en contexte monologique. Lorsque nous nous exprimons seuls, devant un auditoire qui nous écoute silencieusement, l'utilisation de prolepse n'est pas seulement possible, elle est même nécessaire. Car ne nous berçons pas d'illusions, nos auditeurs ne nous écoutent pas béatement, buvant nos paroles et attendant sagement de se laisser convaincre. Au contraire, pendant que nous leur parlons, ils éprouvent chacun de nos arguments au fer de leurs critiques. Tout en restant silencieux, ils ne cessent de nous contredire. L'idéal pour nous, c'est alors de parvenir à prévenir l'émergence d'objections en présentant notre argumentation d'une manière si fluide qu'elle ne semble donner prise à aucune contradiction. Hélas, voilà qui est plus facile à dire qu'à accomplir. Notamment parce que, dans la majorité des cas, nous ne partons pas d'une page blanche. Nos auditeurs nous écoutent depuis leur propre point de vue, irrigués d'informations recueillies et d'arguments entendus auparavant. Avant même que nous ne formulions notre premier mot, ils ont déjà des idées préalables, plus ou moins bien articulées, sur le sujet que nous nous apprêtons à aborder. Pour les oratrices et les orateurs, la méthode à suivre est donc la suivante. Si nous avons la conviction que, pendant que nous parlons, nos auditeurs pensent à une objection susceptible de menacer l'efficacité de notre argumentation, il est alors crucial de déployer une prolepse afin de dissiper les résistances. Si nous ne le faisions pas, la critique ne cesserait de surgir à l'esprit de nos auditeurs, teintant du sceau du doute chaque mot que nous prononçons. Pour notre argumentation, il s'agit d'un poison lent et potentiellement mortel. Attention, cela dit, lorsque nous choisissons de déployer une prolepse, nous devons être certains que l'objection à laquelle nous répondons est véritablement présente à l'esprit des auditeurs. Sinon, le procédé se révélera contre-productif. Non seulement nous perdrons un temps précieux à déployer une réfutation inutile, mais, de surcroît, nous attirerons l'attention de nos auditeurs sur une objection à laquelle ils n'avaient pas même songé. Cette erreur est très fréquente, y compris dans la vie quotidienne. Le vendeur précisant à ses clients « Je ne cherche pas à vous vendre ce qui m'arrange. » Le médecin ajoutant spontanément « Vous pouvez avoir confiance dans ma prescription, je n'ai aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. » Le dirigeant associatif disant à l'un de ses partenaires « Nous ne cherchons aucunement à détourner le projet à notre profit. » Autant de prolepses qui, employées de manière superflue, risquent non pas de lever un doute, mais bien de le semer. Étude de cas. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Après un démarrage tonitruant, ma campagne patine. Voilà en effet plusieurs jours que mes adversaires ont trouvé un nouvel angle d'attaque. Ils ne cessent de répéter, sur tous les tons et en tout lieu, que je n'ai jamais été ministre, ce qui est exact malheureusement, et que je ne serais donc pas compétent pour exercer la fonction suprême, ce qui est absurde naturellement. Je sais que, à chaque fois que je prendrai la parole, les électeurs ne pourront désormais plus s'empêcher de se demander « Est-il vraiment de taille pour une telle mission ?» En plein milieu d'un meeting, je me lance donc dans cette tirade. J'entends certains répéter que je n'ai jamais été ministre. Ils ont raison. Lors des 30 dernières années, j'ai simplement été chef d'entreprise, directeur d'une grande école, député, secrétaire général de parti politique, président de commission parlementaire et président de l'Assemblée nationale. Pardonnez mon inexpérience. Mais, vous savez, je ne suis pas le seul. Figurez-vous que le général de Gaulle lui-même n'avait jamais été ministre avant de devenir président et fondateur de la Ve République. Eh bien, c'est l'une des nombreuses choses que nous avons en commun. Décryptage. Cette prolepse était nécessaire. En répondant avec force, nous avons rassuré nos électeurs sur la légitimité de notre candidature et privé nos adversaires d'un angle d'attaque bien commode. Il était crucial, toutefois, d'attendre que l'objection ait été soulevée abondamment dans le débat public avant de nous y confronter. Si nous avions déployé la même tirade dès le début de la campagne, nous ne nous serions pas contentés de suggérer la critique à nos adversaires, nous l'aurions de nous-mêmes induite à l'esprit de nos auditeurs. La prolepse en contexte compétitif. C'est évidemment dans le cadre du débat contradictoire que les objections nous terrifient le plus. Elles seront formulées par un adversaire se tenant en face de nous. Lui aussi cherche la victoire. Il ne nous ménagera pas. S'il aperçoit une faille dans notre armure, il frappera de toutes ses forces. Après tout, c'est bien légitime. Nous sommes résolus à faire de même. Dans ce contexte, il peut être extrêmement tentant de recourir à des prolepses. Pourquoi ne pas prendre les devants et anticiper de nous-mêmes une objection embarrassante? Nous pourrions ainsi employer les mots appropriés, ceux qui nous arrangent, nous ménagent, et empêcherions l'adversaire d'utiliser les siens, plus cruels et dangereux. Hélas, aussi séduisante que soit cette option, elle se révélera très souvent être une impasse, voire pire, se retournera contre nous. Et ce, pour trois raisons. Premièrement, nous allons perdre un temps considérable. Nous dilapiderons de précieuses secondes à nous justifier contre d'hypothétiques objections alors que nous aurions pu les utiliser à développer notre argumentation. Deuxièmement, nous risquons, là aussi, de suggérer à notre adversaire une objection à laquelle il n'avait pas pensé et dont il ne manquera pas de faire bon usage. Car, troisièmement, face à un débatteur expérimenté, notre prolepse ne sera de toute façon d'aucune utilité. Il fera comme si elle n'avait jamais été formulée. Pire, il en profitera pour reprendre l'objection à son compte en des mots autrement plus sévères que les nôtres. N'avons-nous pas pourtant déjà répondu? N'avons-nous pas justement désarmé l'objection? Sur le plan logique, oui, c'est vrai. Mais, comme nous le verrons plus tard, le débat compétitif n'obéit pas, ou du moins pas seulement, aux règles logiques. Qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, dans de tels affrontements, l'efficacité a souvent plus de poids que la rigueur. Notre adversaire pourra tout à fait se permettre de faire fi de la prolepse que nous aurons déployée avec labeur, l'ignorer purement et simplement. Non seulement nous aurons perdu du temps, mais en outre, nous n'échapperons pas à l'attaque. C'est même pire que cela, nous l'aurons introduite. Pour ces trois raisons, la prolepse ne devrait être utilisée qu'avec grande prudence, voire extrême réticence, dans le cadre d'un débat compétitif. Suite de l'étude de cas. Je suis finalement parvenu à passer le premier tour de l'élection présidentielle. Je dois désormais affronter ma concurrente lors du traditionnel débat d'entre-deux tours où je m'attends à être attaqué sur un dossier embarrassant. Dans mon programme, je défends une sévère réforme des retraites alors que, Quatre ans plus tôt, j'ai prononcé un vibrant discours à l'Assemblée nationale pour défendre le système actuel. Au moment où les journalistes abordent ce thème, je choisis donc d'anticiper. « Je sais, madame, ce que vous allez dire. Vous allez me ressortir ce vieux discours que j'ai prononcé il y a des années à l'Assemblée nationale. Mais figurez-vous que la situation a bien changé depuis. Les comptes de notre pays se sont considérablement dégradés, la survie du système n'est plus assurée et il faut bien nous résoudre à prendre des décisions difficiles. C'est ce que je ferai quand je serai président de la République. » Ma contradictrice affiche un sourire carnassier et me répond « Monsieur, si les comptes se sont dégradés, c'est à cause de la mauvaise gestion du gouvernement que vous avez soutenu. Par ailleurs, oui, vous avez raison, je vais vous en reparler de ce discours. Moi, je ne change pas d'avis tous les quatre matins, je ne dis pas tout et son contraire. Contrairement à vous, je ne suis pas une girouette. Je dis ce que je pense. Vous, vous dites ce que vous pensez qu'il faut dire pour être élu. » Décryptage. Ici, nous sommes en grande difficulté. Notre adversaire a balayé d'un revers de la main notre prolepse. Pire, nous lui avons offert l'occasion parfaite pour placer son objection, qui s'est révélée aussi douloureuse que nous le craignions. Dans une telle situation, il eût été préférable de laisser à notre contradictrice le soin de porter l'attaque la première. C'est elle qui, ainsi, aurait été obligée de prendre du temps pour en expliquer le contexte, et nous aurions ensuite été en situation idéale pour répliquer. Cette règle générale souffre toutefois d'une exception de taille. Les situations dans lesquelles les oratrices et orateurs ne disposent en tout et pour tout que d'un seul tour de parole. L'exemple typique de ce type d'interaction, ce sont les procès. Avant que les membres du jury ne se retirent pour délibérer, les avocats s'affrontent une dernière fois par plaidoirie interposée. Il s'agit bien, en termes rhétoriques, d'un débat compétitif. Deux orateurs tentent de se vaincre pour convaincre les auditeurs qui les écoutent. Or, dans une telle configuration, nous courons un grave danger si c'est nous qui parlons en premier. Nous savons par avance que nous n'aurons jamais l'opportunité de répondre aux arguments et aux objections qui nous seront opposés. Pour y faire face, nous n'avons d'autre choix que de nous résoudre à déployer un système de prolepse. C'est ainsi que l'on retrouve, classiquement, dans les plaidoiries de l'accusation, ce genre de séquence « Mon confrère vous parlera sans doute des malheurs qui accablent son client. Il vous décrira en détail son enfance volée, son adolescence traumatisée, sa vie bouleversée. Mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais, nous sommes nombreux à avoir vécu des drames, à affronter des vies difficiles. Nous ne choisissons pas pour autant de devenir des meurtriers. L'accusé, lui, a fait ce choix. C'est la seule chose qui compte. » Cette technique ne suffira pas toujours, bien sûr, mais ce sera mieux que rien.